I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Podcast is a new radio.
Bon matin et bienvenue dans la saison 3 de Fais-tu frette. Déjà la saison 3. Quand je pense que lorsque j'ai commencé, on me disait que ce concept manquait peut-être un petit peu de profondeur et que je risquais de vite me retrouver à court de sujets, et bah pour le coup, j'en connais qui se sont mis une sacrée bûche dans l'œil. C'est que mine de rien, la culture québécoise est infiniment plus riche que ce que la seule démographie de la province peut laisser penser. La société québécoise, parce que multidimensionnelle, est aussi incroyablement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Alors vous savez quoi les amis, de vous à moi, vous pouvez encore vous attendre à quelques saisons en plus de Fais-tu frette. Mon nom est Jean-Michel Lhomme et avec ce podcast je suis vraiment, mais alors vraiment heureux de vous faire découvrir mon nouveau chez moi, le Québec. Bonne écoute. Depuis le temps que vous écoutez ce podcast, vous devez maintenant en être convaincu, bien que multiculturel par nature, le mode de vie au Québec est un mode de vie nord-américain. Et s'il y a bien un domaine dans lequel cela s'exprime, c'est celui des affaires. Si, comme c'est mon cas, vous avez déjà travaillé avec des Américains, vous savez que leur approche est diamétralement différente de celle qu'on a en Europe. C'est quelque chose de plus direct, un tantinet brut de décoffrage, mais bigrement efficace. Quelque chose entre J.R. Ewing et le vendeur de voitures du Texas, vous voyez? C'est globalement l'image à laquelle je m'attendais en arrivant ici. Eh bien, sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, je me suis allègrement mis le doigt dans l'œil. Et comme c'est quelque chose de plutôt douloureux, je me suis dit que ce serait bien urbain de ma part d'inviter un expert du monde des affaires pour qu'il puisse vous distiller ses précieux conseils. Cet expert, c'est mon ami, Vincent Fournier. Salut Vincent!
Salut Jean-Michel, comment vas-tu?
Super bien, et toi?
Ça va très bien, merci de ton invitation.
Oh ben, franchement, c'est un vrai plaisir, et vraiment tu vas pouvoir nous éclairer sur énormément de points, parce que c'est ce que j'ai essayé de dire dans ma petite bafouille d'entrée, là. Mais il y a quand même deux, trois petites choses qui m'ont surpris, qui sont des choses culturelles. Alors il y a des choses sur lesquelles, quand on arrive, on a peut-être du mal à les aborder, d'autres on se dit « Waouh, c'est super, j'adore ce pays !» Voilà, et puis... Et puis, il y a mes fantasmes d'un côté, puis il y a la réalité. Moi, je ne sais quoi me dit que toi, la réalité, tu la connais bien. Parce que, tu es conférencier, tu es auteur, et puis on va y venir au cours de l'émission, mais tu commences à avoir quelques livres à ton ouvrage. Formateur, conseiller stratégique. Bon, autant le dire, la vie des affaires, c'est ton truc.
C'est mon truc. C'est mon quotidien. Ça demeure un univers assez vaste. Je dis toujours la même chose. Que je sois en conférence, en formation, même avec mes clients, je n'ai pas la vérité infuse. J'ai une vision des affaires qui est évolutive. J'ai une ligne, une méthode, une dynamique avec laquelle je peux accompagner mes clients, avec laquelle j'apporte en conférence et en formation. Mais c'est un marché qui est quand même toujours en pleine évolution. Donc, il y a toujours du nouveau à ajuster de ce côté-là. Mais oui, c'est une curiosité que j'ai et je crois effectivement être en mesure de bien apporter certains conseils. Mais pour certains conseils, des fois, les gens me disent « Ah, ben ça me convient peut-être un petit peu moins. » Et c'est normal parce que je dis toujours la même chose, la business à la base part de l'humain. Donc, c'est bien d'avoir une business, mais derrière ça, il y a un humain, il y a des valeurs, il y a une vision, il y a une mission, et il faut savoir les respecter.
Ça fait combien de temps que tu fais ça? Conseiller des entreprises, conseiller des entrepreneurs?
Ça fait 11 ans maintenant que je me concentre exclusivement, presque avec conférences et formations, évidemment, à travailler dans l'univers dans le monde des affaires, dans l'entrepreneuriat. Ça fait 11 ans, mais j'ai quand même passé auparavant 20 ans de ma vie dans le domaine financier où j'ai évidemment côtoyé plusieurs gens d'affaires. J'étais, en guillemets, moi-même dans le monde des affaires. J'étais 10 ans à travailler directement sur le terrain, donc à travailler en lien direct. Et ensuite, j'ai passé 10 ans dans des postes de gestion qui m'a permis, encore une fois, de développer aussi des compétences d'affaires. Donc, c'est tout ce bagage-là réuni qui m'amène à faire ce que je fais aujourd'hui.
Et moi, ce qui m'a intéressé véritablement, et chers amis qui nous écoutez, vous allez comprendre pourquoi j'ai tenu à ce que Vincent soit mon invité ce soir, et votre invité en l'occurrence, c'est parce que tu as une vision, tu développes une vision, j'allais dire un petit poil iconoclaste de mon point de vue, très séduisante, et surtout à contre-courant de l'image que j'avais et que j'ai citée toujours en introduction. Je disais, mon image c'est J.R. Ewing ou le vendeur de voitures du Texas. Donc, un endroit où, grosso modo, le vendeur est roi, le vendeur est un peu sans scrupules, et il est prêt à peu près à toutes les manipulations, même les plus odieuses. Bon, excusez-moi, j'exagère un peu, je fais très image d'épinal, mais voilà, vous comprenez l'idée. Il est prêt à tout pour arriver à vous vendre quelque chose, et Dieu sait que J.R. Ewing est allé très très loin dans les manœuvres. Or toi, le premier livre que j'ai découvert, signé de ta plume, s'appelle « Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter ». Oui. Et là, je me suis dit, au départ, je t'assure que c'est vrai. Ma première remarque, c'était de dire, attends, je vais aller vérifier, il doit pas être québécois. Et une fois, je me suis mis le doigt dans l'œil.
Je dois être honnête avec toi. T'as pas été le seul à réagir de cette façon, même au Québec, parce que le Ewing au Québec existe. Hein? On va se dire les vraies choses, il existe quand même. C'est un marché qui a été très présent. Le vendeur de voitures, qu'on peut peut-être, je dirais même de voitures d'occasion, je suis dans un gros cliché, c'est le cliché qui est entretenu au Québec quand même. Mais quand moi je suis arrivé, parce que ce livre-là, la première édition, parce que là on est déjà rendu à la troisième édition, la première édition de ce livre-là a eu lieu en 2014. Et quand je suis arrivé en 2014 avec ce livre-là, j'étais totalement à contre-courant et il y a bien des gens qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu dis là? Ça n'a aucun sens. » Mais pour moi, tout prenait du sens parce que, à la base, moi, je suis quelqu'un qui a une formation en communication. Et j'ai travaillé pendant des années dans le domaine financier, dans le domaine bancaire, dans lequel, aussi drôle que ça puisse paraître, c'est probablement un des milieux dans lequel la formation en vente est la plus rigoureuse et solide. Et je les ai tous appris, les techniques de vente, contrer les objections, la technique. Bon, je les ai tous appris. Mais moi, quand j'arrivais par la suite avec mes clients, à travailler avec mes clients, ben, très souvent, cette approche-là ne fonctionnait pas parce que je sentais davantage mes clients se sentir agressés que d'être en mesure de développer une relation avec eux. Et c'est là où mes aptitudes communicationnelles, mon parcours de communication est venu attacher certaines choses et qui m'a permis de me rendre compte que on prenait possiblement le problème du mauvais côté de la lunette. Bref, c'est de voir comment le faire. Et c'est là où j'ai apporté le point de dire, ben, les gens n'aiment pas se faire vendre. La phrase que j'ai le plus entendue dans ma vie, et ça fait quoi? Ça fait 30 ans que je suis dans le domaine des affaires. La phrase que j'ai le plus entendue dans ma vie, c'est moi, Vincent, la vente et me faire vendre, j'haïs ça. Alors, pourquoi toujours ramener à vouloir vendre, tandis que le client ressent se faire vendre? Et quand on ressent être en train de se faire vendre quelque chose, ou qu'on a l'impression que la personne en avant de nous veut nous pousser quelque chose dans la gorge qu'on n'a pas de besoin, quel est notre réflexe? On se ferme tous, on se referme, on recule, et on tourne les talons et on s'en va. Donc, pourquoi prendre cette voie-là pour essayer de vendre à coups de marteau, tandis qu'on peut travailler avec le client, développer une relation et lui apporter une solution qui va faire en sorte qu'il va retirer un bénéfice de notre offre? C'est mon approche.
C'est ton approche, et est-ce que tu penses que cette approche, c'est une approche québécoise? Je m'explique, parce que la question est un poil brode de fonderie. C'est quelque chose que moi j'ai ressenti depuis maintenant un peu plus de 2 ans que je suis là, cette espèce effectivement de dichotomie entre d'un côté une culture qui reste une culture nord-américaine, qui reste une culture très business, très culture vendeur de voitures d'occasion. Bon, juste pour la petite information, mais ici si vous regardez la télévision, parmi les plus grands annonceurs publicitaires à la télévision, ce sont des concessionnaires automobiles qui se pavanent dans leurs concessions au milieu de centaines de voitures qui disent « ouais, c'est nous qui avons la meilleure ». On a l'impression d'être dans des films. Il y a cette culture très forte, et en même temps, effectivement, au contact des gens, au contact des sociétés, à la manière dont ils réagissent, bon, on va y venir encore, ça m'a surpris, je sentais qu'il y avait quand même une espèce de lutte entre quelque chose qui fait partie de la lutte du côté très nord-américain, et en même temps peut-être quelque chose de peut-être plus européen dans le culturel, un peu comme on présente toujours le Québec entre deux rives, où effectivement on va mettre l'humain, et d'ailleurs toute personne qui arrive au Québec va le ressentir tout de suite, c'est l'humain d'abord qui nous prend dans les bras entre guillemets. Est-ce que c'est une approche québécoise la méthode de Vincent Fournier?
C'est une excellente question. Est-ce que c'est une méthode québécoise? Je crois que les Québécois se reconnaissent beaucoup dans cette approche-là, et je dirais de plus en plus, parce que bon, comme je mentionnais, mon livre a été, la première édition est en 2014, il a été réédité en 2018, best-seller en 2019. Je réalise que mon message aujourd'hui a beaucoup plus d'impact qu'il en avait auparavant. Je réalise que les gens sont beaucoup plus ouverts à mon approche, à la façon dont je présente la vente aujourd'hui et la recherche de plus en plus. J'ai beaucoup plus de gens qui me disent « enfin quelqu'un qui a les mêmes valeurs ou qui a la même vision que moi aujourd'hui », c'est beaucoup plus présent. Est-ce que c'est une approche purement québécoise? J'aurais la difficulté à te dire si c'est véritablement une approche québécoise, mais immanquablement, ça fait partie de la culture des Québécois d'avoir une vision beaucoup plus humaine de la vente. Tu sais, on a souvent parlé en affaires de B2B et de B2C, et moi, je dis tout le temps, mais à la base, c'est du H to H, donc un humain avec un humain. Oui, ça reste que il peut avoir une transaction en ligne, mais derrière la transaction en ligne, il y a toujours un humain qui a réfléchi à comment il mettra en place un certain processus de vente, et il y aura toujours un humain de l'autre côté qui se sera toujours posé la question de ce qu'il veut véritablement acheter et de ce qu'il a véritablement besoin. Bref, c'est une grande réponse pour te dire, oui, je pense que c'est une couleur québécoise. Est-ce que c'est véritablement que le marché québécois? Ben, je suis pas certain que c'est exclusivement québécois.
Mais c'est effectivement mon point de vue. Je pense pas que ce soit quelque chose qui ne soit destiné à marcher qu'ici.
Non.
Il y a certainement une aspiration mondiale vers une recherche de sens et tout. Mais ça me semble pas totalement un hasard que peut-être ça prenne un petit peu plus vite ou un petit peu plus naturellement, en tout cas, ici. La manière dont je perçois les gens qui te côtoient et qui parlent de ces approches-là, c'est plus comme si Vincent Fournier, oui, il a mis le doigt dessus. C'est-à-dire que, mais oui, c'est ça qu'on est presque plus comme un psychologue. et pas forcément présenté comme un ultime, je sais pas moi, Simon Sinek ou n'importe quoi, quelqu'un qui a la nouvelle méthode successful. Non, on n'est pas sur de la méthode, on est plus sur presque de l'identitaire. C'est pour ça que je me disais qu'il y a peut-être un truc, une petite couleur.
Et je le dis toujours, et je l'ai dit, je n'ai pas la vérité infuse, et j'ai pas l'impression d'avoir réinventé la vente. C'est le plus vieux métier du monde. Je n'ai pas la prétention de l'avoir réinventé. Je ramène des fondements qui existent, mais peut-être dans un angle que je dirais un peu différent, qui permet de voir la vente davantage comme un processus d'influence. Et pour moi, c'est véritablement ça. La vente, c'est un processus d'influence. Et on vend tous à tous les jours. À tous les jours, on vend. Même si on sort du marché commercial, on vend tous. On vend le restaurant auquel on veut aller manger avec les amis. On vend le film qu'on veut aller voir avec notre conjoint, notre conjointe. On vend le brocoli que notre enfant doit manger parce que c'est bon pour sa santé. Bref, on vend tout le temps. C'est de l'influence. C'est prendre quelqu'un, lui faire comprendre l'avantage ou les bénéfices que ce qu'on va lui dire ou ce qu'on veut faire va avoir pour lui également. C'est ça de la vente.
C'est effectivement notre quotidien, on est bien d'accord là-dessus. Si tu veux bien, j'aimerais qu'on fasse un espèce d'exercice de style. Beaucoup de gens qui écoutent ce balado sont encore en Europe ou viennent d'arriver. Et pour beaucoup, ils vont prendre des métiers, métiers du secteur de la vente. Mais j'allais te dire, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, n'importe quel métier, parce que sur n'importe quel métier, on fait de la vente, quoi qu'il arrive. Je veux dire, même le comptable, à un moment donné, quand il présente son bilan, eh ben, il faut qu'il le vende. Et pour toute personne qui a côtoyé un comptable, il sait qu'il y a plusieurs manières de présenter les choses. Voilà.
Ne serait-ce que de se présenter pour un entrevue d'emploi, ben, tu dois te vendre. Et l'entreprise doit vendre son poste à tes yeux pour que tu trouves que c'est le meilleur poste pour toi. Donc, c'est de la vente.
Eh ben justement, on va faire ça. Imaginons le parcours de quelqu'un qui se dit « Allez, je me lance, j'arrive au Québec ou je suis en passe d'arriver. Et maintenant, je vais me vendre et peut-être que je vais vendre. C'est quoi les bons conseils à donner à quelqu'un qui va faire son premier entretien d'embauche, son premier entretien qui, alors, je te décris un petit peu. Si je suis en France, la bonne vieille méthode qui, j'espère, n'a plus trop cours, mais... Voilà, c'était une lecture de son CV. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Lhomme, je suis né en patati, j'ai fait tout ça. Ouh, c'est super. Voilà, un truc bien barbant et bien chiant, mais c'est un petit peu comme ça qu'on faisait. Et après, il y avait une séance de questions-réponses. J'ai l'impression que c'est pas trop comme ça qu'il faut s'y prendre ici.
Je dirais, ce fut un temps. Et je pense que cette façon de faire maintenant est révolue. Pourquoi? Parce que je pense que la première chose qu'on doit se poser, c'est pas « je veux un emploi puis ce poste-là me convient », mais je pense que la première question qu'on doit se poser, c'est « qu'est-ce que mon bagage à moi peut apporter à l'entreprise avec laquelle je veux travailler? » La ligne, elle est très mince, mais elle est hyper importante. Elle est hyper importante parce que à la base, et je le dis autant pour les produits et les services, et quand on est dans un processus d'embauche et de dotation, on est le produit ou le service qui se met en marché pour avoir un poste. On n'achète pas un produit et service. On achète ce que le produit ou service va nous apporter. La différence, elle est hyper importante parce que c'est là que on se positionne vraiment différemment, parce qu'une transaction d'achat, peu importe laquelle elle est, ou une transaction ou une décision d'achat ou une décision de recrutement ou de dotation, elle est 80% psychologique, 20% technique. Alors on va assurément, et le déclencheur d'achat est lequel? Le déclencheur d'achat, il est émotif. C'est pas la tête qui décide, la tête valide ce que notre cœur nous dit, mais je veux pas rentrer dans un côté trop psychologique. Donc, la personne qui va arriver dans un poste et qui veut se mettre dans une position avantageuse devant un employeur, c'est d'être capable de dire, ben voilà mon CV. Et moi, je pense que telle chose peut vous apporter ça, pourrait vous apporter ça. Je peux faire ça pour vous. Et ensuite de dire, ben je vous dis ça parce que si vous regardez dans mon CV, validation par la suite, si vous regardez dans mon CV, j'ai cette expérience, j'ai cette expertise, j'ai cette formation académique. Donc, plutôt que de se mettre en marché en disant « j'ai ça comme produit, ça vous intéresse », dites plutôt « ben voilà, vous parlez dans votre offre d'emploi que vous avez besoin de quelqu'un qui fait telle chose, mais moi, je peux vous aider à atteindre ça, je peux vous permettre d'aller là », bref, d'aller au-delà du descriptif, aller davantage dans le côté psychologique et émotif.
Tu parles du côté psychologique et émotif, c'est effectivement quelque chose que j'ai ressenti très fort lors des divers entretiens que j'ai pu faire ici. Déjà parce que, alors, puis alors, pour tous ceux qui écoutent ce podcast, vous devez le comprendre, j'aime bien parler. Donc ça m'a surpris. Au départ, c'était pas trop moi qui parlais. La prise de parole était plutôt de la part de l'entreprise qui se présentait. Et surtout, quand elle m'interrogeait derrière, je sentais bien que, entre guillemets, se contrefoutait pas mal, j'exagère, mais de l'itération de mon CV, dans l'absolu, il l'avait déjà reçu, il l'avait lu, il le savait. Ce qui les intéressait, c'était le bonhomme. Et j'ai pu avoir des questions auxquelles on n'est pas forcément habitué en France, je veux dire qu'on pourrait nous considérer de presque personnel. Pourquoi t'es venu au Québec? Pourquoi t'es venu avec toute ta famille? Ah bon, qu'est-ce qu'ils font tes enfants? Et ainsi de suite. Et en fait, derrière tout ça, on sent que ce qui les intéresse, plus que les diplômes, c'est le bonhomme. Dans son entièreté. C'est en gros, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il aime faire, tout. Pas simplement le côté boulot du bonhomme. Non, le package total. Voilà.
Et c'est important ce que tu dis parce que, oui, c'est important que lorsqu'on a un poste à pourvoir, qu'on prenne connaissance des qualifications et des compétences de la personne qu'on embauche. Ça, c'est sûr et certain. Donc, mais ils sont écrits dans ton CV. Donc, s'ils sont écrits, on présume qu'on est capable de bien le voir. Mais, ce qu'on oublie régulièrement, c'est que des compétences, ça se développe. Une expertise, ça se gagne. Par contre, une attitude, c'est difficile à changer. Alors, on va souvent embaucher par compétences, mais on va souvent remercier par attitude. Alors, le recrutement aujourd'hui, on va davantage aller voir la personne derrière. Est-ce que, comment elle est au niveau relationnel? Est-ce que c'est quelqu'un d'équipe? Est-ce que au niveau de l'équipe avec qui elle travaille, est-ce que c'est quelqu'un avec qui on pense qu'il peut avoir un certain fit, comme on dit très bien en québécois? On est plus dans une, on est pratiquement plus dans une agence de casting que dans une entreprise qui fait du recrutement. Et bon, c'est sûr que là, on est peut-être actuellement dans une période particulière pour parler de ça, parce que au Québec, actuellement, on vit une pénurie de main-d'œuvre incroyable. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile, mais ça demeure que on veut pas embaucher quelqu'un juste par ses compétences. On veut embaucher quelqu'un par ses compétences et par son approche relationnelle pour qu'elle puisse bien correspondre aux valeurs de l'entreprise, à la culture de l'entreprise et à l'ensemble de l'organisation avec laquelle elle travaille.
C'est vrai qu'en plus, tu le disais, mais actuellement, le Québec est en plein emploi, j'allais dire un plein emploi plus. C'était déjà le plein emploi depuis, dès que j'ai commencé à m'intéresser au Québec et à y venir de temps à autre avant même d'y émigrer. Là, effectivement, on l'a vu dans une précédente émission, mais il n'y a pas une industrie, il n'y a pas une usine qui n'affiche pas sur sa devanture un énorme « nous embauchons là tout de suite maintenant ». Voilà, c'est assez. Et c'est vrai que ça change beaucoup le rapport. Le rapport de force, je suis même pas sûr que ce soit le bon mot en fait. Voilà, c'est un peu vieillot de décrire ça comme ça, mais on va dire l'équilibre entre le candidat et l'employeur, il est quand même pas le même.
Non, absolument pas le même. Et à un point tel que, arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter, qui est mon premier livre, qui est surtout axé dans une approche commerciale, eh bien, je suis de plus en plus embauché par des entreprises pour les aider à mieux recruter. Parce que le recrutement est devenu un acte de vente. On doit vendre l'organisation pour que la personne nous choisisse davantage. Et je vais même te donner un scoop. Je suis en train d'adapter cette conférence-là dans une conférence qui va s'appeler « Arrêtez de recruter, laissez vos candidats vous choisir ». Parce que le processus est sensiblement le même. Donc, c'est là où on doit travailler. Donc oui, actuellement, dans le marché du Québec, On a une pénurie d'emplois qui est pas de pénurie d'emplois, mais une pénurie de main-d'œuvre et non de pénurie d'emplois, on s'entend bien, ne pas faire un mauvais lapsus, mais et que je crois que j'ai fait précédemment, mais peu importe, juste de comprendre que effectivement on a ces besoins-là et maintenant les entreprises doivent davantage se mettre en valeur pour faire en sorte de présenter les candidats en leur disant qu'est-ce que nous on peut faire pour vous, mais le candidat doit également se positionner pour dire moi ce que je peux faire pour vous, pour qu'effectivement, il y ait un bon match et qu'il y ait une embauche efficace. Parce que embaucher quelqu'un et devoir le remercier ou que la personne décide de quitter de son plein gré quelque temps après, ben, je crois que je lisais des statistiques il n'y a pas très longtemps et on parlait d'un coût d'embauche entre 15 et 20 000 $. Donc, on peut pas se mettre à faire du roulement d'embauche comme ça pour un seul poste. C'est vraiment beaucoup trop. Ça demande beaucoup trop d'énergie pour l'organisation, mais ça demande également beaucoup trop de sommes engagées pour pouvoir faire une erreur de recrutement.
Vincent, première chose, merci pour le scoop. Déjà. Bah oui, quand même. Deuxième chose, on va continuer le process de ce candidat. Bon voilà, ce candidat a suivi tes conseils et il a réussi à se faire embaucher. Il arrive dans ses premiers pas de vendeur. Imaginons que c'est un vendeur, vraiment quelqu'un qui mm-hmm. fait que ça. C'est quoi la bonne attitude à prendre ou peut-être les erreurs peut-être à pas faire, c'est peut-être plus facile d'ailleurs pour toi, tu fais comme tu veux, de cibler les erreurs à pas faire pour que ces premiers pas de vente ici au Québec soient une expérience réussie, tant pour lui que pour ses clients, et qu'il n'y ait pas de braquage.
Ben, je vais y aller dans le sens. La première attitude à prendre, pour moi, c'est une attitude d'écoute. Très souvent, quand on arrive dans un cadre d'emploi, on veut rapidement faire nos preuves, ce qui est correct, soit dit en passant. Mais plutôt que d'arriver avec ses gros sabots pour essayer de tout changer en disant qu'on va tout révolutionner, prenez le temps d'écouter et de voir. Prenez le contexte, prenez conscience de l'environnement dans lequel vous êtes. Prenez votre cadre de référence, sachez ce qu'il y en est et écoutez les gens autour de vous et allez poser des questions. Intéressez-vous aux gens autour de vous pour bien comprendre dans quelle organisation vous êtes. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit la même chose. On ne vend plus avec des réponses, on vend avec des questions. Donc, il faut prendre le temps de comprendre le marché dans lequel on est pour ensuite être en mesure de bien comprendre à qui on devra vendre et qu'est-ce qu'on devra vendre. Donc, à la base, il y a vraiment un volet d'écoute à faire et non d'arriver à vouloir défoncer des portes. Possiblement que les portes sont déjà ouvertes. Il suffit juste d'entrer, de poser certaines questions et de vous intéresser sincèrement. Accumuler cette information-là pour débuter, elle vous sera primordiale par la suite pour être en mesure de mieux vendre. Ça, c'est sûr, sûr, sûr et certain. Et ensuite, l'erreur à ne pas faire, outre le fait de partir à la course puis d'essayer de tout faire en arrivant, l'erreur à ne pas faire, qui pour moi, elle est hyper importante, c'est arrêter d'essayer de vendre à tout le monde. D'accord? Ça, là, ce point-là, là, monsieur et madame tout le monde, là, il n'existe pas. D'accord? Sachez à qui vous vous adressez. Parce que votre produit ou votre service que vous allez vendre ne peut pas faire à tout le monde. Et si vous essayez de le faire à tout le monde, vous allez essayer de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas de besoin. Vous allez être un vendeur à pression. Et au Québec, il n'y a plus personne qui aime ça se faire vendre. Mais tout le monde adore acheter, par exemple. Alors, il faut trouver ce bon point-là et je vous le dis, sachez à qui vous parlez. Parce que, je le dis tout le temps à la blague, on ne parle pas à un prêtre de la même façon qu'on parle à un gars de la construction. C'est le même principe. Sachez à qui vous parlez et une fois que vous savez à qui vous parlez, vous allez être en mesure, avec toutes les informations que vous avez eues, de déceler véritablement quelle est la connexion entre les deux et c'est là que vous allez arrêter de vendre. Parce que arrêter de vendre, c'est quoi? Arrêter de vendre, c'est de trouver le point à votre client qui lui fait mal, le bobo ou l'aspiration. Parce qu'à la base, on consomme pour deux choses, plus de plaisir ou moins de douleur, tout le temps. C'est les deux seules motivations intrinsèques que nous avons, plus de plaisir et moins de douleur. Donc, c'est là qu'il faut aller interroger, au-delà du besoin. Le client a un besoin, mais il faut aller au-delà du besoin pour aller découvrir c'est quoi la motivation derrière. Et là, c'est là qu'on, en posant des questions, on est en mesure de bien les identifier. Et une fois qu'on connaît les motivations, et là, on devient pour une solution. Et quand on devient une solution, ben une solution, ça s'achète pas, ça se vend. Donc, une solution, ça se vend pas, ça s'achète. On le vire de bord, excuse-moi. Donc, c'est là où on arrête de vendre. Parce qu'on présente les bénéfices, puis on dit au client, voici ce qui est à faire. Mais il faut, pour ça, pour que vous soyez en mesure de devenir la solution pour votre client, vous devez savoir à qui vous parlez. Parce que je vous le répète, on vend pas un prêt de la même façon qu'on parle à un gars de la construction.
Ça fait fur. Je crois que c'est un point sur lequel on se rejoint, on a enregistré ensemble un autre podcast sur ton propre podcast il y a quelques temps et je me souviens très bien qu'on avait parlé de cette importance de la cible, de connaître sa cible, de savoir à qui on parle. Mais je suis vraiment content que tu y insistes dans ce podcast-là, qui est peut-être un peu plus générique, mais ça me semble vraiment important parce que si je dois faire moi une différence entre la société principalement française, on va dire européenne, et ici, j'allais dire la personnalité individuelle me semble être plus importante ici. Je m'explique. En France, on va beaucoup se rattraper par des groupes communs, parce qu'on a la société, le gouvernement, l'État qui est très présent sur beaucoup de choses. On se définit de gauche, de droite, on est très politisé, donc on peut se rattacher à des cadres. Ces cadres-là peuvent permettre aux mauvais vendeurs, mais aux vendeurs grosso modo, de dire de faire un peu un profiling à la FBI, mais en début de carrière, voilà, et de savoir à peu près à qui ils s'adressent. Ici, les gens sont beaucoup moins politisés. Ici, les gens sont beaucoup moins, j'allais dire, tenu, soutenu par la société qui, voilà, l'État-providence, c'est pas en Amérique du Nord que ça se passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je parle à Vincent Fournier, ben, faut vraiment que je sois conscient que je parle à Vincent Fournier. Je parle pas à son cousin, ou quelqu'un qui est derrière, je parle à lui. Et si je le connais pas lui, eh ben, je vais pas pouvoir me rattacher à des cases, à des groupes auxquels je pense parce que il est comme ça, voilà.
Ça change tout et t'as totalement raison. Et je dirais, j'ajouterais à ce que tu dis, le Québécois n'aime pas être une généralité. Donc, ici, dire, ouais, mais tout le monde fait ça, pour nous, pour plusieurs Québécois, je dirais pas pour nous, mais pour plusieurs Québécois, les gens vont répondre, ouais, mais je suis pas tout le monde. Donc, ce point-là est très important. Je reviens à mon côté relationnel. Donc, et encore une fois, il y a un besoin de connaître la motivation derrière le besoin. Et pour illustrer mes propos, je vais prendre un exemple très, très simple. La voiture électrique. On est dans une ère actuellement où tout le monde veut une voiture électrique. Si toi, Jean-Michel, tu veux une voiture électrique et tu viens me voir, moi qui suis un vendeur de voitures électriques, et tu me dis « j'ai besoin d'une voiture électrique », et que moi, je te vends la voiture électrique avec mon plus beau discours écologique pour te dire que c'est bon pour la planète, c'est extraordinaire, c'est l'avenir, c'est là qu'on doit aller, c'est hyper important pour sauver la planète. Et que, à l'ultime, ta motivation à toi pour la même voiture électrique, elle n'est pas écologique, elle est économique parce que le prix de l'essence a monté énormément et que tu veux sauver de l'argent, même si je te la vends au côté écologique, je vais passer à côté de la cible. Donc, de prendre le temps de bien connaître les motivations du client, c'est là que ça devient hyper important. Et je reviens à ce que tu disais, c'est là où le côté plus individu, le plus, en fait, particulier à qui on parle, connaître la personne, a une importance grandissante au niveau de la vente.
Ça fait le lien avec la première partie de ton intervention où tu disais effectivement qu'il faut écouter. Voilà. Ça me rappelle un précédent podcast que j'ai enregistré avec Cécile Lazartigue-Chartier sur l'interculturel et qui insiste énormément là-dessus aussi. Le fait d'écouter, de comprendre, de s'intéresser. Je reprends mon exemple de mon vendeur qui vient d'arriver de France, qui veut réussir. Écouter, s'intéresser. Et on m'a dit, mais tu vas peut-être me confirmer, hein, Cécile me l'a dit et d'autres personnes, que si le Québécois, le consommateur québécois n'aime pas effectivement ne pas être considéré pour ce qu'il est, être mis dans des cases comme si tout le monde devait faire ci, devait faire ça, il y a un autre truc qui l'énerve, qui l'énerve beaucoup, c'est quand notamment un Français se pointe et lui dit « Ah oui, mais en France, on fait comme ça. » Je faisais comme ça en France et je crois que ça énerve assez prodigieusement. Ce qu'il faut dire en même temps que c'est le contre-exemple parfait de ce que tu nous expliques depuis tout à l'heure, d'arriver avec ses certitudes, ses convictions et dire si vous faites pas comme ça, vous êtes tous des nazes. Ça marche pas.
T'as totalement raison. Et on fait la relation avec le français, le québécois, mais c'est exactement la même chose. Si j'arrive dans une entreprise, peu importe laquelle, et que je fais une comparaison avec une autre entreprise, ces généralités-là, souvent, sont des prises négatives qui font en sorte de briser la relation plutôt que de la construire. Donc, et ce volet de comparaison-là, parce que veux, veux pas, on faisait ça comme ça, ouais, mais c'est pas parce que vous le faisiez que c'est bon. C'est pas nécessairement ça. Et tu sais, la recette toute faite ou la baguette magique, si ça existait véritablement, on serait pas ici en train de se parler, on serait tous assis sur une plage en train de siroter un petit drink tranquillement. Elle n'existe pas, la recette magique. La baguette magique, la recette parfaite, elle n'existe pas. Mais la recette pour un individu, elle peut exister. Mais il faut juste être en mesure d'ajuster notre discours à la personne avec qui on parle. Et c'est ça qui est important.
Est-ce que pour toi, l'humilité, c'est une vertu ou c'est un ingrédient obligatoire du monde des affaires au Québec?
Je dirais de plus en plus, pour moi, humilité et vulnérabilité sont des qualités attractives, incontournables en affaires, en gestion, à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que de démontrer que nous avons pas nous sommes pas Superman, nous sommes pas Batman, nous ramène sur une relation d'égal à égal avec l'autre personne et vient bâtir et solidifier la relation pour avoir une discussion beaucoup plus constructive que plutôt de rentrer dans une confrontation ou tout simplement de dire ben tu dois faire ça comme ça. C'est comme ça que ça doit se faire. La nouvelle génération, premièrement, ne veut rien savoir de se faire dire quoi faire. Et même je vais me permettre de dire nos générations, aujourd'hui, se faire dire tu dois faire ça, tu dois faire ça, puis tu dois faire ça, nous met dans un état qui est pas nécessairement très positif et va créer un doute et peut amener immanquablement une confrontation. Bref, pour moi, humilité et vulnérabilité sont devenus des atouts en affaires quand ils sont bien utilisés, par exemple.
Évidemment. Je te posais la question, à dessein, évidemment. J'ai un peu préparé mon coup, quand même. Parce que j'ai l'impression que cette humilité, elle est plus naturelle. Elle est plus dans la personnalité, dans le comportement québécois, naturellement. Alors, pas de tous, hein. On est bien d'accord que le vendeur de voitures d'occasion qui existe encore, c'est pas l'humilité qui saute aux yeux la première fois qu'on le voit. Ça, c'est sûr. Et il y en a effectivement des comme ça. Mais cette posture d'humilité, cette posture d'écoute me semble plus naturelle ici. Elle l'est pas forcément. On le sait, les Français sont perçus un peu partout dans le monde comme des gens particulièrement arrogants et imbus de leur personne. À tort ou à raison, on en discutera, mais si tout le monde pense ça, c'est qu'il y a bien un truc quand même qui chiffonne quelque part. Et je vais sortir du cadre business, mais pour juste montrer ce que c'est l'humilité naturel à la québécoise. Ça vient de recommencer en France, mais il y a 2 ans, au Québec, a été relancée la Star Academy. Grande émission, hyper populaire. La Star Academy, la première saison, donc il y a 2 ans, a été gagnée par un jeune homme qui s'appelle William Cloutier. Voilà, qui a gagné, mais alors haut la main. Dès qu'il a gagné, il a sorti un album. Ses titres sont numéro 1 ici, de partout. Voilà, globalement, ça va bien pour lui. Et là, William Cloutier, en ce moment, depuis quelques semaines, il est en France. Il est en France, il participe à la nouvelle mouture de Starmania, voilà, qui vient d'être relancée à Paris. Et il se trouve que William Cloutier, il a un rôle de doublure. Il n'a pas le rôle de Johnny Roquefort, il est juste la doublure, et quand il n'est pas dans la doublure, il va être dans les chœurs. Personne ne va le voir et ainsi de suite. Ce jeune homme est une vedette, pas parler de star, mais est une vedette au Québec. Il réussit, il est successful, eh ben, il accepte, ça lui semble naturel, il a une opportunité, la posture d'humilité lui est parfaitement naturelle. Voilà, et pourtant c'est douloureux, hein, dire il quitte sa femme, son môme, voilà, pour aller à l'autre bout de l'Atlantique pour ce que lui considère être une étape, une chance incroyable de continuer à apprendre son métier. C'est d'une humilité totale et pour lui c'est naturel. Est-ce qu'un gagnant ou une gagnante de la Star Academy en France serait aussi naturellement mis dans cette posture-là pour aller jouer, j'allais voir moi, un rôle de doublure à Broadway? Pas sûr. Moi, je suis pas sûr. C'est pour ça que je pense qu'il faut être... C'est intéressant que tu répondes sur cette question d'humilité, parce que quand ce fameux vendeur va arriver en France, je pense que s'il veut réussir, il doit effectivement se mettre dans cette posture d'humilité naturelle. C'est aussi ça, comprendre les gens avec qui on travaille ici.
Oui, mais j'ajouterai un point sur l'humilité et la vulnérabilité.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
C'est la perception de la vulnérabilité ou l'humilité qui va faire la différence. Si ta perception de la vulnérabilité et de l'humilité, elle est négative, tu voudras pas aller jouer sur ce terrain-là. Mais si, au contraire, tu la vois davantage comme étant une ouverture à un dialogue, comme étant une ouverture à aller plus loin, à pousser la relation avec le client. Parce qu'exemple, un exemple simple de vulnérabilité et d'humilité. Le client vous pose une question et vous n'avez pas la réponse. En tant que vendeur, qu'est-ce qu'on fait? On a deux choix. On répond ce que l'on pense, donc on n'est pas certain, donc on risque de se tromper. Ou on dit au client, regardez, je ne suis pas certain de ce que vous me dites là, je n'ai pas la réponse exacte. Je pense que ce pourrait être ceci, mais plutôt que de vous le dire et de faire une erreur, je vais aller vérifier pour m'assurer que tout est correct et vous revenir avec la bonne réponse. Pour moi, ça, c'est être capable d'avoir de la vulnérabilité, c'est être capable d'avoir de l'humilité et c'est surtout être capable de démontrer à notre client que non, on n'est pas Superman, mais qu'on travaille pour lui pour aller chercher la bonne réponse. Parce que si on répond quelque chose et on n'a pas la bonne information, on vient de créer probablement une déception ou une attente trop élevée chez le client, ce qui fait en sorte qu'on vient d'entacher la relation avec qu'on a avec le client, mais le client qui peut avoir avec l'entreprise pour laquelle on travaille.
Vincent, c'est formidable, tu fais les transitions tout seul. J'allais venir sur le terrain de l'échec et tu as fait la transition, voilà, parce que ne pas savoir répondre à une simple question d'un client, très souvent, c'est perçu comme un échec. Oh, tu savais pas, tu n'avais pas préparé, t'es nul. Tu l'as démontré, et c'est vraiment effectivement comme ça que ça me semble fonctionner ici. L'échec, c'est pas ça. L'échec ici, ça serait de donner une mauvaise réponse.
Oui, dans mon livre à moi, oui.
Oui, non, mais
mon
pas...
Livre je... à moi, oui, c'est vraiment... Et je pense que c'est... Oui, tu as raison, si je réfléchis. Je pense qu'effectivement, c'est très québécois, majoritairement. Alors, remarque, hein, on a quand même des personnes qui vont garder la ligne de la confiance et de l'assurance ultime. Mais je pense que pour moi, un échec... En tout cas, moi, c'est ce que j'enseigne. De donner une mauvaise réponse à un client, pour moi, c'est un échec. Parce que, ben, premièrement, on l'induit en erreur. Donc, on vient de, assurément, amener le client sur la voie de l'insatisfaction, qui, elle, peut amener sur la voie du client difficile, qui, elle, peut amener sur la plainte, qui, elle, bon, bref. Et quand on sait qu'un client insatisfait va en parler à 16 de ses amis, donc, il y a des dommages collatéraux immenses à vouloir donner une réponse à tout prix, pour ne pas perdre la face devant notre client sans nécessairement savoir que le point qu'on donne est bon, juste et précis. Pour moi, c'est une erreur flagrante à faire. Et en plus, comme je le mentionnais, ça nous permet de dire à notre client, regarde, je suis pas parfait, mais je vais travailler pour toi. Donc, en juste cette petite phrase-là, le Québécois consommateur le reçoit comme une marque de reconnaissance et ceci vient bonifier la relation. Et ce client-là, le prochain coup qu'il aura besoin de quelqu'un, il n'ira pas voir ailleurs, il va aller te voir toi parce qu'il sait que tu es capable de travailler pour lui. Et là, il va te référer d'autres personnes et c'est là que le client devient un client beaucoup plus fidèle et ambassadeur. Et on sait à quel point un client fidèle consomme davantage chez nous et nous réfère d'autres clients. Donc oui, je suis d'accord avec toi. L'échec, c'est davantage de répondre en fin de compte, à quelque chose qu'on ne sait pas.
Ce qui m'a fait penser à ça, et ce qui m'a fait me dire, ça doit être un point important du monde des affaires, de la manière d'appréhender toute la notion de vente au Québec, c'est parce que j'ai extrapolé en observant le domaine politique. En France, par exemple, même si je trouve que c'est une connerie abyssale, mais c'est comme ça, c'est structurellement comme ça, nos hommes et femmes politiques sont censés être omniscients et avoir réponse absolument à tout, sur tous les domaines, voilà et tout. Et dès qu'il y en a un qui n'y arrive pas, parce qu'il connaît pas le prix de tel truc, de machin truc, il passe pour un loser et on se fout royalement de sa gueule pendant des semaines. Voire pour certains, ça peut tuer une carrière politique.
Exact.
Ici, à plusieurs reprises, et je dis bien à plusieurs reprises sur tous les bancs de l'Assemblée, dans des entrevues, j'ai vu des politiques à qui on posait une question et qui disaient « Eh ben, écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas votre réponse, on va se renseigner, on va vous revenir. » Je me souviens même très bien avoir vu ça lors d'une conférence de presse du ministre de la Santé en pleine crise de Covid. L'une des premières questions, il dit « Je ne sais pas, on va travailler, on va se renseigner, je ne veux pas vous dire de bêtises. » Et en fait, il a eu le temps de répondre à la fin de la conférence de presse que ses équipes s'étaient renseignées et il a pu donner une bonne information. Ça m'avait frappé parce que je me suis dit, en France, le ministre, la personne interrogée, se serait senti obligé de trouver une réponse tout de suite en donnant une information, quitte à prendre le risque à dire des bêtises. C'est ce qui m'a fait dire que cet état d'esprit, ce rapport à l'échec différent, ce qu'on appelle nous échec, c'est pas ce qu'on appellerait échec ici, c'est quand même l'un des traits de caractère du monde des affaires, de la vie du business très québécois.
Permets-moi quand même une toute petite nuance. Si à chaque fois qu'un client vous pose une question et que vous n'avez pas la réponse...
Oui.
C'est vos devoirs. C'est la raison pour laquelle je vous dis, si vous arrivez à quelque part, ben prenez le temps de vous renseigner. Parce que bon, ça va l'échec. Mais c'est parce que si à chaque question que le client vous pose... on est toujours en position « Ah, je ne le sais pas, je vais aller travailler pour vous. Ah, je ne le sais pas. » Ben là, à un moment donné, il y a une marque d'incompétence qui peut se mettre entre vous deux. Bref, on se comprend.
Donc, je comprends bien, mais t'as raison quand même. C'est qu'il faut pas passer d'un excès à l'autre. Voilà,
c'est ça, parce que là...
L'incompétence n'est pas une vertu non plus. Voilà.
Exactement.
Ne demande pas au vendeur d'être omniscient, mais il a le droit quand même de connaître son sujet et d'avoir quelques réponses.
Et le fait aussi de dire, regardez, ça aussi, c'est très, très bien reçu au Québec. Regardez, je débute, ça fait pas très longtemps que je suis au Québec, ça fait pas très longtemps que je suis ici. La question que vous me posez là, malheureusement, je suis pas en mesure de vous répondre, mais je vais aller me renseigner, par exemple. Ça, cette humilité-là, cette vulnérabilité-là, elle est extrêmement considérée au Québec.
Eh ben, je te le confirme encore plus. Et là, c'est pas mon expérience personnelle, mais c'est mon expérience de mon épouse, voilà, qui a participé à cette émission il y a quelques temps, qui a débuté dans un métier de vente suite à sa formation en décoration il y a quelques semaines. Et effectivement, elle-même était très surprise parce que, évidemment, dans sa période de formation, très souvent, elle s'est retrouvée à dire « Écoutez, je n'ai pas la réponse. Laissez-moi 2 minutes. Je vais aller me renseigner, voire trouver quelqu'un qui va pouvoir vous répondre. » En expliquant qu'elle venait d'arriver, qu'elle était en formation et tout. Et en fait, à chaque fois, c'est passé. Mais alors, comme une lettre à la poste, elle a même senti un climat très positif s'installer dans sa relation avec les clients. Ouais, c'était presque, j'allais dire, presque un argument positif.
Et je le crois. Et je le dis, cette humilité-là, elle est attractive. Cette humilité-là, elle est un ciment relationnel et un ciment de confiance. Et quand la confiance et la relation est là, il suffit juste de bâtir là pour qu'on puisse fidéliser le client. C'est aussi simple que ça. Et là, un client fidèle a beaucoup moins d'objections envers nous. Donc, cette humilité-là et cette vulnérabilité-là, je pense qu'on peut très bien construire une business grâce à ça. Et on se comprend, là, encore une fois, je mets des bémols. L'objectif n'est pas d'aller dans l'ultime vulnérabilité puis l'ultime partie où on doit... Bon, on se comprend. Je vais arrêter de parler, on se comprend.
On est bien d'accord. Le temps file, et comme tu es un homme très occupé, il va quand même falloir que je te libère à un moment donné, mais il me reste quand même au moins 2 questions à te poser et 2 aspects que j'aimerais voir avec toi. J'aimerais t'interroger sur le rapport au temps dans le milieu des affaires. Je vois que tu fais une tête un peu bizarre, mais qu'est-ce qu'il veut me dire celui-ci? En fait, je m'attendais, moi, toujours à l'image nord-américaine et tout ça et tout, que le monde des affaires ici soit extrêmement, voilà, j'allais dire, hyper réactif. Ça va du tac au tac. Tu poses une question, t'as une réponse. Tu poses une question, t'as une réponse. Tu fais un truc, c'est fait demain. On décide un truc, c'est fait. Que ça aille très, très vite. Excuse-moi, c'est l'image d'Épinal que j'ai toujours de... la société nord-américaine qui est extrêmement attirée par le monde des affaires, très business, qui le passe en priorité et qui va très vite. Le temps, c'est de l'argent. Et en fait, ici, j'ai eu le sentiment qu'on était un peu au ralenti. Ah. Ouais. Et je voulais savoir si c'était une impression ou si c'était peut-être un... Là aussi, ce côté un petit peu entre deux rives de la manière de faire des Québécois, peut-être un petit peu plus posé, un petit peu plus réfléchi ou moins empressé.
C'est une excellente question que je t'avoue n'avoir jamais regardée sous cet angle-là. Mais moi, je n'avais pas cette perception-là. Peut-être que la perception que tu as est... elle est peut-être effectivement un peu contaminée, je dirais, par nos voisins du Sud. Mais j'ai l'impression que malgré tout, la vitesse de réaction au Québec est très importante et qu'on réagit très rapidement au niveau affaires, au niveau business. Parce que je constate, moi, plusieurs personnes qui viennent me voir et très souvent... on est dans une situation où on est pris dans les opérations, on est réactif, ça va vite, on doit faire ça, on manque de temps, et que pour avoir travaillé pendant des années également dans le milieu privé, à quel point le Québécois s'est longtemps valorisé de travailler plusieurs heures par semaine. Donc, je crois que cette réalité-là, elle existe quand même ici. J'en suis même convaincu qu'elle existe ici. Toutefois, je pense qu'elle est en train de se transformer quelque peu parce que un des thèmes les plus mis de l'avant dans les dernières années a été l'équilibre travail-famille. Donc, les gens ont travaillé à se repositionner beaucoup de cette façon-là et je crois que ils ont ralenti ou lever le pied un peu de l'accélérateur pour positionner leur temps et équilibrer leur temps. Et honnêtement, je pense que la pandémie est venue mettre encore plus d'emphase sur tout ce volet-là. Et je constate aussi que les entrepreneurs sont beaucoup plus enclins à prendre du recul pour réfléchir. C'est aussi beaucoup ce que j'enseigne dans au-delà de vouloir développer puis de vouloir vendre, ben de vouloir prendre le temps de réfléchir pour savoir où on veut aller. Je vois de plus en plus d'entrepreneurs qui sont prêts et qui ont même ce besoin-là parce que c'est nécessaire. Mais je pense que la relation avec le temps ou la relation avec la réactivité ou la proactivité est en transformation, mais je ne suis pas certain que ta perception que tu avais n'est pas juste.
Très intéressant. Une fois de plus, je te disais que depuis le début, tu fais les transitions tout seul. T'en as encore fait une. Voilà, je suis désolé, mais pourtant, je vous assure, il n'a pas eu le conducteur de cette émission. Il ne sait rien des questions que je vais lui poser. Et à chaque fois, il annonce le sujet suivant. C'était le dernier sujet avant de parler de ton actualité que je voulais aborder avec toi, effectivement, la conciliation travail-vie de famille. Pour introduire... Tu te pars, mais t'as déjà moitié répondu à ma question, que je te dise. Voilà. Mais bon, pour introduire quand même, pour préciser un petit peu ma question, en travaillant, là aussi, excuse-moi, mais avec des Américains, il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'occasion d'échanger pas mal, et j'étais dans une grosse entreprise en France à l'époque, et je lui racontais les heures assez... rallongé que je passais chaque semaine au travail et tout, malgré nos cinq semaines de congés payés et tout ça et tout. Et moi, tu vois, je lui racontais ça en me disant, oh, attends, il va dire, oh, attends, Jean-Michel, c'est un bonhomme et tout ça et tout, hein. Quelle force de travail! Et en fait, je sentais bien qu'il était limite pas outré, mais que ça le dérangeait. Et en fait, en discutant avec lui, j'avais compris que pour eux, quand le travail se termine à 17h, si t'étais pas parti à 17h30, maxi, mais plutôt 17h, il y a toujours des exceptions, mais si t'étais pas parti à 17h, c'était soit que, un, t'étais pas fichu de t'organiser correctement. Parce que si t'es obligé de rester jusqu'à 21h au travail, et que dans tes 8 heures de journée, t'as pas pu faire ce que t'avais à faire, c'est que tu sais pas t'organiser. Et c'était sa vision. Sa vision, c'était pas de se dire, il a trop de boulot. C'était, il sait pas s'organiser. C'est la manière de voir le truc. Et le deuxième truc plus intéressant, et c'est sur quoi je t'emmène là, lui, c'était dire quelqu'un qui n'est pas capable de quitter son boulot à 17h30, c'est quelqu'un qui néglige sa vie de famille, qui se néglige lui, et donc peut-être quelqu'un avec qui on n'a pas envie de travailler. Et ça fait le lien avec le tout début de cet entretien sur la partie humaine. Est-ce que c'est un peu le cas aussi ici au Québec? Ou pas du tout?
Non, je crois que c'est un peu le cas au Québec. Je crois que, comme je t'ai dit, je pense qu'il y a quelques années, le Québécois moyen, et je crois qu'il y en a encore, là, on se comprend, se valorise beaucoup dans le temps qu'il peut passer au boulot. Cela étant dit, je crois sincèrement que par moment, il y a des périodes de pointe où effectivement, il faut peut-être être plus présent au boulot. Mais je crois que les dernières années, un peu avant la pandémie, la montée importante des cas de dépression, des cas d'arrêt de travail, des cas de maladies professionnelles, bref, etc., des burn-out, bref, sont venus repositionner bien des choses et sont venus repositionner particulièrement les valeurs de certains Québécois. Et comme je le mentionnais, la pandémie est venue, je crois, accélérer le tout. Et la nouvelle génération qui vient, qui ont vu ou pas vu leurs parents parce qu'ils travaillaient trop, n'ont pas envie de répéter ce même parcours-là. Donc, j'ai l'impression, encore une fois, et c'est mon regard, que tout est en train de changer de ce côté-là. On a juste à voir la montée du télétravail et les gens qui, suite à la pandémie, qui ne voulaient pas aller travailler chez eux, qui aujourd'hui ne retourneraient pas au bureau. Cet équilibre-là, cette vie-là, cette capacité de profiter de la famille, de profiter des enfants, de prendre du temps pour soi, de profiter de soi, et de est beaucoup, beaucoup plus présente. Et je le vois chez les professionnels, je le vois beaucoup également chez les travailleurs autonomes, les entrepreneurs. On enseigne beaucoup maintenant pour les entrepreneurs. La première chose à faire dans ton agenda dans l'année, c'est de mettre tes vacances. C'est la première chose à mettre à ton agenda, à réserver, c'est tes vacances. Pourquoi? Ben parce que paraphraser mon ami et mentor Martin Latulippe, qui dit « meilleur humain, meilleur demain », ou encore Rémi Tremblay qui dit « meilleur humain, meilleur leader ». Bref, il y en a plusieurs qui ont un peu ce même message-là. Ben, je dis un peu la même chose. Il est important de prendre soin de l'humain derrière le professionnel, derrière le travailleur autonome, derrière l'entrepreneur. Parce que la machine, l'essence, elle est là. Donc, c'est important de faire la distinction entre être occupé et être productif. On peut être tous très occupés, mais est-ce qu'on est véritablement productif? Et c'est le cas. Et c'est pour ça que, comme tu disais, des fois, de voir des gens tout le temps occupés, la perception qu'on peut avoir, c'est qu'ils sont mal organisés parce que peut-être qu'ils ne sont tout simplement pas productifs. Donc oui, je crois que le Québécois est de plus en plus sensible à toute cette réalité-là qu'on peut appeler équilibre travail-famille, mais qu'on peut appeler également prendre soin de soi, qu'on peut appeler également prévention de la santé mentale, et qu'on peut aussi appeler vivre et non survivre.
Justement, sur cette partie très humaine, de l'importance des relations humaines, comment ça se passe au travail? Imagine, j'intègre une équipe de 10-15 personnes. Là aussi, je vais prendre un exemple pour bien que tu comprennes ce que j'ai en tête. Ce qui est assez fréquent en France, quand tu arrives le matin, c'est de se retrouver autour de la machine à café, de commencer à jaser sur ce qu'on a regardé la veille au soir à la télévision, qu'est-ce qu'on a vu comme dernier film, qu'est-ce qu'on a lu comme bouquin, prendre des nouvelles des enfants, et ainsi de suite. Petite scène qui peut se reproduire assez souvent dans la journée. C'est-à-dire que tout de suite, on va prendre du temps, aussi sur du temps de travail parfois, pour aborder des choses, on va dire, très personnelles. Pour ma part, je le dis tout de suite, j'ai un regard assez bienveillant là-dessus, parce que je considère que créer des relations interpersonnelles permet aussi de mieux travailler derrière et d'être beaucoup plus efficace. Mais ceci étant dit... J'aimerais savoir si ça se passe à peu près pareil. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, celui qui arrive de France, qui va demain s'intégrer dans une équipe, quel comportement il doit adopter en arrivant dans cette équipe? Est-ce qu'il doit faire comme il faisait avant, plutôt abandonner ça et attendre le 5 à 7? C'est quoi les bons conseils de Vincent?
C'est une excellente question. Et encore une fois, je crois que cette réalité-là est en pleine mutation. Et je t'explique. Il y a quelques années, c'était exactement la même chose. D'accord? Pour moi, c'était exactement la même chose. On arrive le matin, on prend le café, on discute, on est à côté de nos bureaux, on échange un peu. Et ensuite, on se retourne de notre côté, on se croise par la suite dans le corridor, en passant, telle chose. Bref, c'est tout ce que moi j'appelle la communication informelle. Pour moi, elle est très présente. La communication formelle, c'est celle qui est peut-être plus dictée, plus précise, en plus dans les détails. Donc, on est plus dans un mode opérationnel avec une communication plus factuelle, je dirais, à ce niveau-là. Cela étant dit, la pandémie est venue complètement chambouler le tout pour faire en sorte de travailler avec maintenant des microcosmes d'entreprises. Les entreprises sont beaucoup maintenant en télétravail. Lorsqu'on se retrouve au bureau, c'est pas toujours les mêmes personnes qui sont là. Des fois, les personnes qui sont au bureau se connaissent un peu moins parce qu'ils ne travaillent pas nécessairement dans le même département. On a beaucoup l'avènement des bureaux partagés maintenant. Donc, tu peux être assis ici et à côté de toi, il y a quelqu'un du département des technologies. À l'autre côté, il y a quelqu'un du département de la comptabilité. Donc, c'est pas nécessairement des gens avec qui tu avais un lien naturel auparavant. Donc, je crois que tout ceci est en train doit se rebâtir différemment. Est-ce que je suis en train de dire que la communication informelle ne se fait plus? Non, je ne dis pas ça. Par contre, je crois que la communication informelle avec la pandémie est quelque chose qui a pris beaucoup moins d'importance et qui, pour moi, est fondamental pour toute culture d'entreprise et pour toute relation à l'intérieur de l'entreprise. Donc, je te réponds à deux niveaux, une grande introduction, mais je te réponds à deux niveaux. Pour moi, je crois que ce modèle de communication informelle-là doit rester et doit continuer en entreprise. Toutefois, je pense qu'il prend une autre forme aujourd'hui avec le travail, avec le télétravail, et qu'il doit être davantage mis à contribution lorsqu'on travaille de façon séparée, parce que la communication informelle, c'est elle qui crée des relations et c'est elle également qui diffuse la culture d'entreprise plus que tout simplement la communication factuelle ou la communication plus en mode affaires. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais pour moi, elle avait deux niveaux.
Parfaitement bien. Vincent, je te remercie énormément. Ça fait une heure qu'on jase et ça a été un vrai bonheur parce que bousculant dans mes demi-certitudes, mais tu m'as appris beaucoup de choses. Je sais qu'actuellement, tu es en train de faire la tournée des salons littéraires parce que tu dédicaces ton dernier bouquin. Est-ce que tu pourrais m'en parler un peu? Parce qu'on a beaucoup parlé de arrêter de vendre, laisser vos clients vous acheter. Mmh. Troisième réédition déjà, mais tu te contentes pas de rééditer des succès précédents, tu continues à griffonner. C'est quoi le dernier bouquin?
Le dernier bouquin s'appelle « Propulser vos affaires, les cinq piliers fondamentaux pour développer votre sens des affaires ». Bref, ce livre-là, c'est aussi une formation en ligne, soit dit en passant, que j'ai fait, et aussi drôle que ça puisse paraître, j'ai fait la formation avant d'écrire le bouquin. Et la raison pour laquelle j'ai fait et cette formation et ce bouquin-là était bien simple, parce que beaucoup de gens qui venaient vers moi pour optimiser leur vente, pour avoir de meilleurs résultats, et à force de discuter avec eux, je me rendais compte que t'as pas de problème de vente. C'est pas ça ton problème. T'as un problème de positionnement, t'as un problème de clientèle, t'as un problème de marketing, t'as un problème de structure, t'as un problème d'organisation. Bref, c'était souvent le problème caché derrière le besoin qui était mis en place, qui était l'enjeu. Et donc, ça m'a permis de me repositionner davantage dans mon approche plus de stratège marketing ou de conseiller stratégique, comme je dis, et propulser vos affaires. Bref, c'est les cinq piliers pour moi qui sont fondamentaux pour toute réussite et tout succès d'entreprise. Donc, le premier, celui que j'appelle la gestion. Donc, c'est tout le volet plus fondation. Qui tu es, où tu vas, qu'est-ce que tu veux. Bref, une question d'identité et de positionnement. Deuxièmement, à qui tu parles, c'est-à-dire à la clientèle cible. Troisièmement, attractivité. Donc, comment tu, une fois que tu sais à qui tu parles, comment tu l'attires. Quatrièmement, opération. C'est quoi ton offre de service? Très souvent, il y a des gens qui vont mettre l'offre de service en premier lieu. Pourtant, une offre de service doit répondre aux enjeux, aux problèmes, aux aspirations de nos clients. Donc, si on connaît pas le client auparavant, comment on peut lui répondre? Impossible. Donc, l'offre de service doit arriver au niveau opérationnel pour qu'on puisse par la suite bien lui vendre et bien lui faire vivre une expérience client. Et le dernier pilier, qui est le pilier, je dirais, administration, c'est la mise en place des objectifs et le plan d'action et comment on réalise le tout. Bref, c'est ça le dernier livre. C'est avec lui actuellement que je suis en tournée des différents salons littéraires et je serai au Salon du Livre de Montréal à la fin du mois, donc les 25, 26 et 27 novembre, si ma mémoire est bonne, en séance de dédicace avec Propulser vos affaires, mais aussi avec Arrêter de vendre, laisser vos clients vous acheter.
Oui, maintenant tu commences à avoir pas mal de piles de bouquins et tout. Alors derrière les piles de bouquins, il y a Vincent Fournier. Oui. Bon, ceci dit, comme les bouquins partent vite, on retrouve vite son visage. Chers amis, vous qui nous écoutez, j'aimerais juste vous dire que Vincent développe toute une pléiade de supports divers et variés. Il y a évidemment un site internet, il y a des balados, lui aussi il fait des podcasts, voilà, qui sont aussi, vous pouvez retrouver en vidéo. Il y a plein d'informations, évidemment il y a ses livres, évidemment il y a ses conférences, évidemment il y a les formations auxquelles il participe en tant qu'expert. Mais voilà, il y a plein de choses sur lesquelles, avant de venir au Québec, si vous avez envie ou simplement si vous avez envie de commercer avec des Québécois, parce qu'il y a énormément de très belles boîtes qui font des choses absolument dingues ici et qu'on ignore très 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 souvent, enfin que j'ignorais moi pour la plupart en tout cas. Voilà, je ne saurais trop vous conseiller que d'aller faire un tour sur son écosystème. Voilà, et puis si le cœur vous en dit, contactez-le, vous verrez, c'est quelqu'un de sympa qui parle presque autant que moi, pas tout à fait, mais mais presque. Oui, Vincent, je te remercie énormément. C'était une fois de plus un bonheur, comme à chaque fois qu'on se parle tous les deux.
Grand bonheur. Bonheur partagé, comme toujours. Vraiment, merci de l'invitation. Ça fut très agréable.
À très bientôt. Ciao.
À très bientôt, tout le monde. Bye.
Et voilà, Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancée très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh bien, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu frette à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. Bah, j'avoue, c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu frette, FAISTUFRE2TE, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.